CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi, il est approximativement midi. L'heure du dîner, l'heure aussi de la bande dessinée. Entre les salades, entre les pointes, entre les desserts, il y aura bien une place pour les frères à terre.
Ok, c'est bon. Je crois qu'on tient de quoi, les gars, là. Ça nous a pris une coupe d'années,
technique,
mais,
ah ouais, ouais,
on
est bon, là.
Mais on a enfin une formule qui marche, là.
Ouais, c'est... De quoi, on a enfin une formule. Techniquement, on commence à être bon. La formule, oui, ça a toujours été bien, notre émission, à part...
tu veux dire, quand on se grouillait à genre parler de 15 BD par émission, là...
Ah, mais il y avait tellement de BD cool à chroniquer, et puis pour ramener ça... T'sais, pour ramener ça à 15 BD, je dois en laisser tomber 15 par semaine.
Aussi, vous avez vu les gars, derrière la console, hein, maintenant c'est carré.
C'est génial.
Merde. Ouais, enfin, merde. Ah, ok, non c'est bon, c'est carré.
Ouais, c'est vrai qu'au niveau de la console, t'es pas... T'es quand même... Comment dire... Jay était à chier dans le fond. Avant toi c'était Jay, il était pas très fort. Puis aussi, gros point les gars, on a arrêté de se couper
la barre.
Non.
Hey les gars,
t'as eu le lit, Robert? J'étais justement en train de parler, puis là tu te popes un Robert random dans l'intro, ça n'a aucun sens. J'allais justement nous pitcher des fleurs en disant qu'on se coupe plus la barre.
Non mais c'est parce que j'allais dire que c'est parce que Lévi il évite l'émission, il est pas là.
Là je commence à en avoir déjà plein le truc, puis ça commence l'émission de piste, c'est une équipe de piste avec Robert qui arrête pas de chialer. Pierre, ferme le micro de Lévi,
je coupe ça
enfin
tout de suite là.
Non mais
merde, putain c'est pas celui-là, excuse-moi. Oui, ok, c'est celui-là.
C'est pas gentil, ça.
Non, c'est ça. Non, ouais.
Parce que toi,
alors, attends. Je crois que je vais lancer la musique. Je lance le bouton bleu. Voilà. C'est ça.
Robert, c'est Robert. Laissez-aller à la bosse. C'est juste qu'il faudrait refaire les planchers en marbre rose importé super cher de nos condos à Orlando. Orlando. Puis y a le chauffeur de notre jet privé qui lui aussi aimerait avoir son propre chauffeur pour son jet privé. L'année passée, on s'est acheté chacun une Ferrari rouge. Une Ferrari rouge. Mais cette année, la tendance est au gris, puis on veut des Ferrari grises. Ça fait que dig it in, baby, puis achetons nos records en sortant du show. C'est parce qu'on a des projets qui demandent d'avoir un peu de cash flow. Juste d'engager le fameux sculpteur Umberto Linguini pour décorer les jardins de nos vignobles en Italie. Italian Wine Week. Puis avoir les frais portuaires qu'on paye pour nos bateaux à Monaco à chaque année. Faudrait bien qu'on vende des CD. Puis si vous l'écoutez tantôt en vous en retournant dans l'auto, vous l'aimez pas trop. Vous pourrez aussi bien leur filer au beau-frère dans un échange de cadeaux. Ça fait que garange-toi, baby, puis achète-donc nos records en sortant du show. Sur la petite table à gauche dans le portique, quand tu ramasseras ton manteau.
90.
Et c'était le top CFAK avec 5 minutes de retard.
Le top de l'heure. Voilà.
Bienvenue chez les frères Acter. C'est nos chroniques. Aujourd'hui, on est mercredi, pas jeudi, comme ça a été dit dans le générique.
On va finir par charger
et
ça.
On est sur CFAK 88.3, comme ça a été dit dans le top de l'heure. Et on vient d'écouter Blue Jeans Bleu. Achetez donc nos records.
Un petit crot de cobra.
Un petit crot de cobra.
Un petit crot. Ah, tu roules tes ailes, toi. Allez, vas-y donc.
Un petit crot de cobra.
Un petit crot. Passez beau temps des fêtes, les boys?
Absolument.
Ma foi, beau temps des fêtes, oui.
Dans le ski? Dans le ski,
dans le ski, canapé.
Dans le tout ski. Dans le...
tout. Puis, malheureusement, pour les auditeurs, ils peuvent pas voir en ce moment, puisqu'on n'est pas en live, mais Robert arbore très bien la moustache en début d'année.
C'est vrai.
Ouais.
Ouais, ça se mêle
encore. Il y a un gros côté moustache.
Ah, non, ça se balance.
Moi, je l'appelle Gunther.
Ça me fait quelque chose.
Ça se balance.
Ouais, ça me fait quelque chose.
390 stagiaires chez les frères Acter.
Un Lévi toujours absent.
On a perdu notre stagiaire, Lévi. On ne sait pas. Il devait être là, mais je le vois pas. Il doit être à la machine à café.
Un jour.
Le challenge sera de retrouver Lévi.
Ça devrait pas être trop dur. On a quelques BD à chroniquer aujourd'hui. On a quand même des sacrées belles lectures dans les dernières semaines. Wow. Ouais, c'est toujours bien. Donc, tu nous présentes ça, Oli? Ah!
J'hésitais à partir avec Robert, mais on va rester calme. Alors, on a fini l'année avec Jérémy Moreau.
C'est vrai.
Pas Jérémy Morio, hein. Pas de jeu de mots, machin. On a fini avec
Pense.
Jérémy Moreau. On a rembobiné le temps, car j'ai vu passer quelque chose qui était paru en 2014, et de Jérémy Moreau et de Wilfried Lupano, le singe de Hartlepool, aux éditions Delcourt.
Ça m'étonne qu'on n'avait pas vu ça passer avant. Mais bon.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé, en passant à la bibliothèque, Pride of Baghdad, de Brian K. Vaughan. J'ai pensé à Maxime, je me suis dit, c'est du Brian K. Vaughan, c'est pour lui. Il est de Nico Henrichon. C'est l'histoire d'un lion, enfin de plusieurs.
Et t'es-tu trompé? On le saura en écoutant la troisième partie de cette émission.
Absolument. On est tombé sur Renaissance. Je ne sais pas pourquoi le tome 3, mais j'avoue que j'aimerais bien savoir la fin de cette histoire.
Petite année, hein.
Ouais. Duval, MM et Blanchard, Renaissance, tome 2, Interzone, aux éditions Dargo. Une série en 3 tomes, donc on attend. Et Pierre, toi, tu as choisi une longue
bande dessinée, 2000 pages de bonheur.
Ouch.
Akira.
Un classique. Que je n'ai toujours pas lu. Hein.
C'est ça, qu'on n'en a jamais parlé, ce qui est un peu étonnant en quasi 3 ans d'émission. Mais
puis il y a une sacrée belle réédition d'Akira.
Exactement. Mais on va voir un petit peu de tout ça.
Ah, c'est bon ça, je suis content. On commence ça, tu nous startes ça en force, Ali, avec le singe?
Je starte ça en force.
Let's go.
Et je vais démarrer ça en puissance.
Et là, Ok.
On s'en bat les couilles,
Olivier est pas là, hein, c'est vrai.
Je tiens à dire que là, j'ai pas accroché, hein, c'était fait exprès. Ah. Voilà, donc voilà, que tout le monde soit au courant.
Il y a une légende en Angleterre que je ne connaissais pas, qui s'appelle le singe de Hartlepool. Hartlepool, c'est un village en Angleterre, nord-est de l'Angleterre. Vous êtes sur la côte est de l'Angleterre, vous vous mettez à peu près au milieu.
Ça dépend dans quel sens tourne le globe.
C'est un port. Et il y a une histoire, alors personne ne sait si c'est juste une fable, une histoire vraie ou pas, mais un jour, il y aurait eu un naufrage en face de l'Angleterre, en face du port de Hartlepool, et un singe, un personnage, serait arrivé dans le port de Hartlepool. Et à cette époque-là, autant vous dire que être français pour un anglais, c'était pas bien. Et l'inverse était vrai aussi.
Ça a toujours pas changé, ça, en fait.
Non.
C'était quand même pire dans le temps.
Donc, ils ont retrouvé un survivant. Et Wilfried Lupano tire une histoire autour de ça, de ce survivant et comment les gens vont le voir, comment les gens vont le percevoir. Il se trouve que c'est un singe. Mais pour tous les personnages, il va passer pour un français parce qu'il correspond absolument au stéréotype du français.
Il y a le soute, d'un.
Il y a
le
soute. Il poilu.
Oui.
Il parle, on comprend rien à ce qu'il dit. Et ils vont nous dérouler toute cette histoire de ce petit singe qui était dans un bateau et qui a fini sur une plage. Et on va voir quel sort vont lui réserver ses habitants. Le style de Moreau est incroyable parce que si tu poses ce livre-là, tu ne peux pas deviner que c'est lui qui a dessiné ça.
Non,
ça me paraît strictement impossible. C'est plus un trait à l'encre avec de l'aquarelle qui est posé derrière.
Et les attitudes des personnages n'ont rien à voir avec Pense, avec... je cherche le nom de ce joueur de tennis.
Max Wilson.
Oui.
Winson, en tout cas, peu importe.
Maxou.
C'est absolument pas du tout fait de la même manière. Et c'est juste brillant. En plus, on a une intervention d'un célèbre personnage dont on taira le nom, mais qui arrive à la fin et qui donne une petite twist okay, sympathique ouais. à tout cela. C'est une fable sur les relations entre les êtres humains. Comment on perçoit les uns et les autres, qui est l'ennemi de l'autre, et comment on juge des fois l'entorte-pièce, et surtout comment un mouvement de foule, je pense que c'est ça, c'est le mm-hmm. truc important, comment un mouvement de foule peut se transformer en une espèce de chose très sordide. Finalement, moi, ça me fait penser, je vais le retrouver, je vais retrouver, il y a un livre un peu dans ce genre-là d'un auteur français qui parle aussi de quelqu'un qui s'est un peu fait passer au broyeur, on va dire, par une foule déchaînée, parce qu'il fallait quelqu'un sur qui passer sa colère ou son énervement ou sa frustration, je ne sais pas comment dire.
C'est, ouais, ben déjà, point 1, c'est très différent des autres œuvres de Moreau. Comme tu dis, on peut même pas deviner que c'est lui. S'il n'était pas écrit dessus, je l'aurais pas cru. Deuxième point, c'est quand même fort. Il y a quelques moments où on a des frissons en tournant une page. Sans vouloir trop spoiler, le moment où on voit la face du singe en question... j'en dirais juste pas plus. Le moment où on tourne la page puis on voit la face du singe gros plan puis que c'est assez hallucinant, on a des frissons. Il y a des personnages quand même assez rigolos, l'espèce de vieux monsieur qui a fait la guerre dans le temps puis qui revient un peu pour mettre un trait là-dessus, de dire à la foule est-ce que c'est un français ou est-ce que c'est pas un français. Il se rapproche du singe puis il est comme je sais que c'est un français, il sent comme les français, il a les mains, regardez ça, ça ressemble à un français. Puis un vieux sénile que tout le monde va croire parce qu'il dit que c'est un français. Non, c'est le scénario est excellent, le dessin est excellent, c'est ouais. Moreau, il joue encore un peu dans les fables, dans les c'est ficelé à la perfection selon moi. Pierre.
Moi, je l'ai pas lu donc
t'as pas Coudi
Mais non,
je pensais que tu l'avais lu.
Mais non, il est arrivé hier, j'avais d'autres choses à dire.
OK. Shocking. Moi, j'avais des regards avec toi. J'échangeais de l'information en parlant. J'étais comme, il sent.
Ah non, moi, je ne sais rien.
Ah, il sentait rien.
Moi, je vous écoute.
L'anglais qui est en moi, l'anglais qui est en moi est totalement choqué.
Alors, si t'as un anglais en toi, ça me choque, tu vois, par exemple.
Ouais, il est totalement choqué.
Okay, dans ce cas-là,
en tant que français, s'il y a un anglais en toi, c'est très choquant.
Rappelle-toi juste que tu dois lire Le singe de Hartlepool.
Non, mais c'est prévu. Normalement, on aurait dû me le laisser pendant les vacances de Noël, mais quelqu'un est parti avec. Ce qui fait que je l'ai demandé pendant une semaine, et puis il est enfin arrivé hier matin dans mon bureau. Donc, j'ai pas encore eu le temps. Excusez-moi, je suis quelqu'un de très très pris.
En tout cas, je pense qu'il faut le lire. Si vous voulez quelque chose d'équivalent, il y a le livre de Jean Tellet qui s'appelle Mangez-le si vous voulez.
Je vais lire ça à la place. Tu vois.
Qui raconte en fait un Français qui est arrivé dans un village qui avait été pris pour un Prussien ou en tout cas pour un partisan de la Prusse en 1870 à des poussières dans un village français. Et cet aristocrate, eh ben, finalement, il avait été fini par être molesté, torturé, mis à mort et brûlé. Voilà. Dans un village, et ça
date.
C'est vraiment la même chose, quoi. Sur un malentendu, quelqu'un qui passe pour un ennemi du peuple dans des moments un peu troubles devient la cible de tous les malheurs, et donc toute la haine, toute la colère se déverse là sur ce personnage. Et pour le coup, ce personnage n'est pas un être humain, mais un petit mm-hmm. singe, ce qui crée en plus une perception très très
étrange. L'image est vraiment forte.
L'image est vraiment forte.
Le moment où ils font un procès, c'est tout le monde contre le singe, puis ils doivent débattre, mais tout le monde pense que c'est un Français, fait que tout le monde le déteste, tout le monde veut le mettre à mort. C'est vraiment fort.
Il n'a pas le choix, de toute façon. Même s'il pouvait parler et se défendre, il n'en aurait pas le choix. C'est la même chose dans Mangez-le si vous le voulez. C'est vrai que ça m'y fait penser, finalement. Donc, de Jean Tellet, c'était vraiment très bien. Et Le singe de Hartlepool, de Lupano et Moreau, c'est absolument à lire. C'est un peu passé inaperçu, je m'en rends compte. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup, si on cherche.
Mais à l'époque, on ne l'a pas chroniqué, par exemple, quand il est sorti.
Non, et puis c'est quelque chose qui n'a pas popé. Alors que pour moi, c'est plutôt une pièce assez maîtresse dans l'œuvre de Moreau. Là. Je le mettrais en avant totalement. Mais bon.
Donc, Le singe de Hartlepool par Lupano et Moreau aux éditions Delcourt. À lire absolument. Pierre, on s'en va écouter quoi?
On va s'en aller écouter de la musique, mais d'abord, il va y avoir un petit truc CFAK, de la publicité, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je peux présenter tout de suite ce qu'on va écouter. On va écouter Feu Chatterton, c'est des Français, j'en ai déjà passé une ou deux fois. On va écouter Ginger. Mais tout de suite, on va partir un peu en auto-promo.
ce parfum que le vent dépêche. On dirait que la chair brûle. Et un suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. Allah aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre. Mon cœur, sous le ciel noir de sang. Allons-nous-en d'ici, cours enfin, cours, allez, vas-y. On dirait que l'enfer entier est à notre route. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
Vous êtes de retour sur CFAK 88.3 FM, les premiers de la bande, avec les chroniques.
L'essence de la radio ?
Des frères. Oui, c'est l'essence de la radio. Mais je n'y arrive pas, hein, c'est fou.
C'est pas grave.
Par contre, c'est quand même les chroniques des frères acteurs. Là-dessus, on est d'accord.
Ça, on est
d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Okay.
Saint-Lévy.
Moi, je ne l'ai pas vu marqué sur la page. J'avais marqué Olivier Robin, Maxime Bilodeau, Pierre Grandjean. Enfin, je n'ai pas vu écrit Lévy, donc c'est peut-être pour ça qu'il fait la gueule. on parle de quoi là ? On parle d'Akira, c'est ça hein ?
Ouais, je crois qu'on parle d'Akira.
On parle d'Akira, donc il faut que je sorte mes petites notes. J'ai pris des petites notes, j'ai fait ça sérieux. Je me suis dit 2020, on fait ça sérieux. Allez, on
arrête les conneries. Mais c'est vieux le truc dont tu nous parles ?
Ah, c'est vieux, oui. Oui. Ça date de 1982, un temps que.
Ouch.
Certains d'entre nous connaissent, d'autres pas. Je pense. Tu me diras si je me trompe.
On a le droit de lire des trucs Olivier, qui sont parus que quand on n'était pas né ?
Non, mais Olivier, toi t'étais né en 82. T'étais né. Donc c'est bon.
Oui, mais toi, t'as pas le droit.
Bah oui, mais c'est moi qui. Mais comme tu fais pas ton travail, hein, qui est-ce qui est obligé de se taper tout ça? C'est moi. Donc, Akira de Katsuhiro Otomo. Le nouveau setup, il est vachement bien, mais par contre, je me brise le cou. Tiens, je vais faire comme ça. En fait, il est vraiment bien. De Katsuhiro. c'est pratique, ces petites choses. J'ai mon micro qui bouge. Pour ceux qui ne peuvent pas nous voir, c'est-à-dire tout le monde à part Maxime.
La technologie.
Donc, Akira de Katsuhiro Otomo, qui est un petit peu un monument du manga. On a tous entendu parler d'Akira, Akira par-ci, Akira par-là. Mais nous, on ne l'avait jamais lu. Enfin, moi, je ne l'avais jamais lu, et mes comparses, apparemment, ne l'ont pas lu non plus. Donc pour quelques chiffres, Akira, ça a commencé à être paru dans un magazine de manga classique où ils diffusent, comme on a l'habitude, par petites tranches de 10-15 pages qui font des chapitres généralement dans les recueils de manga. Donc ça a commencé en 1982 et ça a terminé en 1990. Il y a eu une interruption quelque temps parce qu'ils faisaient l'animé de la série. Ça marchait tellement bien qu'ils ont fait l'animé en même temps que les mangas sortaient dans les magazines. Et au final, quand ils les ont séparés, ça a fait 6 tomes, donc Tetsuo, Akira 1, Akira 2, Kei 1, Kei 2 et Kaneda. En France, on l'a eu, c'est les premiers qui l'ont eu dans les années 90 et 2000, il y a eu des éditions de 14 tomes, donc 13 tomes plus un 14e tome qui est des artworks principalement. Et on a enfin eu dans les années 2010, je pense, la même édition que celle qui était au Japon et aux États-Unis en 6 tomes en noir et blanc, parce qu'au début nous on l'avait en couleur, et remis dans le bon sens, parce que les premières versions qui sont sorties en France étaient sorties au moment où même le manga on le mettait en sens BD. Donc on a enfin des éditions sens manga noir et blanc. Il y a eu beaucoup de personnes qui critiquaient ça parce que en tournant les trucs, en fait il y avait des choses qui changeaient un petit peu
les puristes.
dans la façon dont bougeait l'histoire, parce qu'il tournait pas forcément tout parfaitement. Voilà. Donc, moi j'ai décidé de m'attaquer à ce gros morceau cet hiver parce que j'avais le temps. Akira, c'est un peu plus de 2000 pages de manga. Là, j'ai lu 12 tomes. J'ai pas lu le 13e. Je me suis réservé de pas lire la fin pour être sûr de rien spoiler. Donc, il me reste juste un tome à lire. Ça m'a fait 13 tomes de 180 pages à peu près, entre 165 et 185 pages. C'est le seinen, donc le type de manga pour les garçons adolescents. Qui a lancé le genre du cyberpunk. C'est un genre de science-fiction futuriste où les gens ont une vie de marde, et ça a permis, ça a inspiré après des... Ghost in the Shell, c'est du même auteur il me semble, mais aussi Battle Angel Alita dont on a parlé, Cowboy Bebop dont on a déjà parlé, et plein d'autres. Donc voilà, c'est un gros gros morceau et c'est vraiment un monument. Cette personne-là, comme Osamu Tezuma ou d'autres, ont vraiment inspiré beaucoup de mangaka actuels. Pour le pitch, on se retrouve dans Neo Tokyo. C'est une ville qui a été reconstruite sur les cendres de Tokyo, qui a été détruite par une frappe nucléaire pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc eux, ils l'ont déjà eu. On n'est pas au même moment qu'eux. On est dans un futur même qui est futur pour nous, il me semble, dans les années 2030, quelque chose comme ça. Et on suit un gang de motards qui s'amusent sur les routes dans une zone sécurisée, interdite au public, près du Grand Zéro, en fait, Tokyoïde, donc l'endroit où la bombe a explosé. Parce que le Neo Tokyo a été construit juste à côté de l'ancien Tokyo. Et puis sur cette route, est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est un enfant? Il y a un des motards qui se prend quelqu'un, qui disparaît en même temps, donc on sait pas du tout. Et donc ce Tetsuo, cette personne qui a perdu le contrôle de sa moto, il se retrouve arrêté par les militaires, parce qu'ils étaient poursuivis par des militaires sur cette route interdite. Et ses amis, comme c'est un gang de motards, qu'on est des potes et tout ça, ils vont pas le laisser dans la merde, ils vont essayer de le retrouver. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à jouer avec une résistance qui essaie de résister contre... Au début, on ne sait pas trop qui a le gouvernement, etc. Des cachotteries du gouvernement qui complotent pour créer des armes de destruction massive. Des armes qui sont en fait des petits-enfants qui ont des pouvoirs spéciaux. Enfin voilà, il y a plein de choses qui s'imbriquent. On se demande si on va arriver sur une quatrième guerre nucléaire ou pas. Ça va partir en guerre civile, en guerre mondiale quasiment. Donc il y a un peu tout qui se passe. C'est assez impressionnant, toutes les briques qui vont arriver au fur et à mesure. Il y a plein de mystères qui vont arriver. Moi, je suis au 12e tome, donc voilà, j'ai vu plein de choses qui arrivaient auxquelles je m'attendais pas au fur et à mesure de l'histoire. Je préfère pas trop en dire parce que ce serait quand même dommage de vous gâcher ça. Donc, plein de rebondissements. C'est très bien dessiné. Moi, ça me semble un type de dessin assez standard, mais peut-être qu'à l'époque, il l'était moins. Voilà, donc c'est très bien dessiné. Moi, j'ai eu la version couleur qui était, j'avoue, moi, je trouve quand même ça le fun quand il y a de la couleur, mais la version noir et blanc, de ce que j'ai vu, les quelques images que j'ai vues, les ombrages, etc., sont quand même plutôt bien faits. Voilà, moi j'arrive pas à comprendre comment les Japonais, ils ont attendu 8 ans pour avoir la fin, parce que à chaque fois que je prenais que je finissais un tome, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire le suivant. Et comme il y en a 14, je pouvais pas réussir à tout avoir avec ma seule carte de bibliothèque. heureusement, c'était des vacances et j'ai pu en lire le plus possible en suivant. Voilà, je conseille vraiment à toute personne qui aime le manga, parce que j'arriverai à comprendre que ce genre d'histoire ne plaise pas à tout le monde, mais ceux qui aiment ce genre, qui ont aimé d'autres choses comme Alita, dont Lévi par exemple, je pense qu'il va apprécier ce genre de choses. Tout ce qui est un petit peu science-fiction,
donc ça se mérite, etc.
Ça mérite amplement d'être considéré comme un monument, parce que ouais, c'est, bah, on sait que ça a inspiré beaucoup de choses. Quand on voit ce qui est sorti après, inspiré de ça et qui a donné envie aux gens de faire du manga et de faire ce genre de choses, tu sais que ça, c'est un peu comme, non, on peut pas tous aimer les Beatles, mais quand on voit tout ce que toutes les personnes qui se sont inspirées des Beatles et à qui les Beatles ont donné de faire la musique et qui font des choses merveilleuses aujourd'hui, ça vaut le coup de.
Puis je vois qu'il y a un film.
Il y a plein de choses.
Puis qu'il y a une différence, en tout cas. Ça semble qu'il y a une bonne différence entre le manga et le film. Le film, c'est juste la moitié ou la première moitié de tous les mangas. Ouais.
Alors, j'ai pas pu regarder les films. Ça, c'est mon projet. Il y a plein. Il y a au moins deux ou trois trucs en prise réelle. Certains qui sont que en japonais. Il y en a un qui est prévu pour 2021. Au début, ça devait être. Comment il s'appelle ? Christopher Nolan. Ils avaient expliqué que ce serait sûrement Christopher Nolan. Finalement, c'est un japonais ou un américain de. Bah, non, je sais même pas du coup. Taika Waititi, je sais pas du tout qui c'est, mais voilà, ils vont sortir en 2021. Il y a eu tout un animé qui a été.
Ah, c'est fou, les films d'animation datent de 88.
Ouais.
Puis. Ah, ouais, ils ont ramassé plus de 80 millions de recettes avec. C'est assez hallucinant.
Il y a tout. Il y a eu un merchandising qui a été fait autour de ça, à tort ou à raison. Il y a des films et des animés qui valent le coup dans toute la panoplie qu'il y a. Mais ce que j'ai lu pour pas avoir tout vu, c'est qu'il y a un peu de tout et de rien. Faut trouver le bon film, le bon truc. Mm-hmm. Merci Olivier, tu montres le temps que c'est bien de s'occuper du temps. On peut pas m'en occuper.
Cool. Fait que, bah, je vais lire ça. Quand j'aurai le temps.
Donc voilà, Akira. Alors en français, en tout cas, c'est aux éditions Glénat. Il y a 14 tomes ou 6 tomes en fonction de l'édition que vous prenez. Et sur ce, ben, on va partir en musique. J'ai beaucoup parlé, hein, j'ai monopolisé toute la parole. Là. On va partir en musique. Oui, c'est bien ça. Je vais lancer la musique et je vais continuer à parler un peu sur la musique. Parce que parfois, c'est ça que je fais. Non, je t'ai demandé cette musique-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui pour présenter la musique ? Comme je vous disais, j'ai profité des vacances pour lire Akira, mais j'en ai aussi profité pour me reposer, et rien de tel qu'un peu de régression pour se reposer. Je me suis donc replongé dans Docteur Maison, vous savez, ce gars cynique qui trouve toujours ce qui ne va pas chez les gens. Et alors que les plateformes de streaming aujourd'hui me permettent de passer les introductions, il m'a fallu une bonne saison pour me rendre compte que pour cette série, je ne passais jamais l'intro. C'est encore le côté régressif du temps où je regardais cette série à la télé, ou bien est-ce le trip-hop de Massive Attack qui m'envoûte à chaque fois ? Je ne sais pas très bien. Ce qu'on va faire, pour en être certain, c'est qu'on va réécouter Teardrop de Massive Attack. Et c'est pas la bonne. Donc on va écouter Angel de Massive Attack, mais c'est pas grave. À tout de suite.
sur les ondes de CFAK 88.3 FM, vous écoutez les chroniques du Frère Acteur.
Bah, j'ai rien à dire pour cette partie-là.
Tu nous conseilles de lire Akira, donc. Le gars avec la moto rouge.
Mais alors, tous,
la grosse moto rouge, là.
Pas au premier, sauf si vous aimez pas. Mais
oui. Sauf si, bah, sauf je si vous aimez pas. Tout le monde a déjà vu la moto.
Je crois
la fameuse moto emblématique de Akira.
Mais étonnamment, je pensais qu'on la verrait plus que ça dans, dans l'entièreté. Mais en fait, on la voit au début. Et puis, je pense qu'à un bout d'un moment, les gens ont demandé à revoir la moto. Alors, ils ont fini par la remettre.
Ah. Je m'aperçois aussi que dans Rick and Morty, dans la saison 4 de Rick and Morty, il y a un hommage à Akira. Je viens d'y repenser. Ça m'a fait comme un flash. D'ailleurs, on en parlera peut-être bientôt, j'ai commencé à lire des Rick and Morty. Le dernier que j'ai lu, c'est parle de beaucoup de Monsieur Boîte à Caca, et c'est tout à fait intéressant et assez rigolo.
Ben, sur cette boîte à caca, on passe dans un autre domaine. On va en science-fiction. Moi, je suis souvent le gars qui vous ramène en sci-fi. Cette fois-ci, on parle de Renaissance. On a enfin tous lu le tome 2. Donc, on avait chroniqué peut-être le tome 1 l'année passée, je me souviens pas.
Plaît-il ? Oui, on l'a chroniqué.
Ouais, le 1. Donc, juste un petit rappel, le pitch de Renaissance. Swan et Sati sont nés sur Nakan, une des planètes majeures du complexe.
C'est bien possible.
Pardon?
C'est bien possible.
C'est très fort possible. Moi je les crois. Ouais, c'est noir sur blanc.
Juste Maxime, quand tu fais le pitch, est-ce que c'est le pitch qui est à l'arrière du livre?
Ben attends, je vais le finir.
Ok.
Je vais lire la quatrième de couverture.
Okay, très bien.
Du tome 1. Swan et Sati sont nés sur Nakan, une des planètes majeures du complexe, une fédération de civilisations extraterrestres. Ce jeune couple se destine à une vie paisible dans un environnement équilibré où nature et technologie se complètent quand sonne l'heure de la mobilisation. Les élus du complexe ont en effet décidé d'une vaste expédition destinée à sauver une planète aux ressources épuisées, la Terre.
Donc, c'était vraiment très intéressant.
C'est l'histoire d'une race extraterrestre, donc le groupe Renaissance, qui viennent simplement essayer de nous sauver, empêcher l'autodestruction de la Terre par les humains.
C'est pas du tout réaliste, ça, comme histoire.
Les gens de Renaissance vont donc arriver dans une Terre post-apocalyptique où la grippe fait des ravages. Le scénario est vraiment intéressant. C'est un bel équilibre entre de la sci-fi, de la belle sci-fi comme j'en ai lu en BD, puis des intrigues, chasse à l'homme, tout ça, conflits entre les différentes races extraterrestres. Il y a un beau merge de tout ça dans l'histoire. C'est aussi, j'ai trouvé une belle projection de nos technologies actuelles dans le futur. Je pense naturellement à leur gros vaisseau-mère qui est une espèce d'imprimante 3D géante, autosuffisante, donc ils vont s'imprimer ce qu'ils ont besoin, véhicules, tout ça en temps réel. Bon, on s'entend que c'est un peu poussé, mais c'est de la sci-fi. Hein. Aussi, il y a des espèces d'écrans partout, holographiques, tactiles. Donc, de quoi nourrir l'imaginaire de Jérémy avec sa compagnie en l'Ouest.
Exactement.
Ouais, moi, j'ai adoré.
Combien pour faire de la publicité, Jérémy, comme ça?
Un petit 5$ avant chaque émission.
Ouais.
De quoi... En tout cas, non. J'ai adoré le tome 1, encore plus embarqué dans le tome 2. J'ai bien hâte de voir la fin, le tome 3, j'imagine, qui va sortir d'ici un an. Personnellement, j'ai plus aimé la série Yama de sci-fi, qui me fait fortement... En tout cas, il y a quand même des paysages assez similaires dans les deux cas. C'est très coloré, c'est flyé. Bon, j'imagine que c'est assez dur de renouveler les planètes extraterrestres puis les paysages flamboyants. Bon, en tout cas. Mais j'ai adoré Yama, une histoire en quatre tomes. J'aime aussi beaucoup Renaissance pour l'instant, mais j'ai bien hâte de voir la fin... Vous autres, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bah moi, j'en ai pensé que c'est une bonne histoire. Non, il y a deux, trois choses que j'aime beaucoup, notamment il y a un côté politique, etc., qui est assez poussé dans Renaissance, qui n'est pas le cas, par exemple, dans Hama ou dans d'autres, qui était poussé dans Descender aussi, que je trouve vraiment intéressant.
Qui rappelle un peu les congrès dans Star Wars, exactement. Les espèces de... Ouais.
Exactement, je trouve vraiment, vraiment le fun. Au niveau du dessin, moi j'aime pas tant les façons dont les personnages humains sont dessinés, mais ça c'est quelque chose peut-être de personnel. J'aime bien les extraterrestres et tout, mais les humains, je sais pas, il y a quelque chose dans le temps que je trouve un peu dérangeant dans leur... Mais ça m'a pas non plus empêché d'aimer tout l'histoire et le déroulement. Et oui, autant quand j'avais fini le 1, j'avais envie de lire le 2, autant quand j'ai fini le 2, j'avais envie de lire le 3, donc c'est plutôt bon signe, je dirais.
Mm-hmm. Et toi, Ali ?
Moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. J'avoue, Hama, j'ai des très bons souvenirs d'Hama, mais au niveau des créations graphiques et des créations d'idées du futur, je les trouve vraiment particulièrement bons. Il y en a un qui
m'a complètement époustouflé, c'est l'origami. L'origami qui est un espèce d'aéronef qui peut se déplier, se modifier genre complètement.
L'origami ?
Non, origami. C'est un origami. Et en fait, il est habité par une intelligence consciente qui évolue sous forme gazeuse, et donc il peut piloter une structure extra plate. Donc il peut se modifier, se transformer, et il est réputé pour être souvent de mauvaise humeur.
Ils ont des fantômes qui dirigent les vaisseaux, quoi.
Je trouve ça génial parce qu'ils arrivent à extrapoler qu'est-ce que ça pourrait être la science du futur avec quelque chose qui devient une conscience qui a plus vraiment forme solide. Mais d'un autre côté, il est quand même de mauvaise humeur, donc faites attention, il y a un conseil, l'embêtez pas trop, parce que souvent les origami, ils sont c'est vachement intéressant comme projection. Il y a un côté très cinématographique aussi là-dedans, quand même. C'est moi ou les personnages où ils ressemblent un peu à E.T. où on se trouve Star Wars. Il y a beaucoup les personnages là.
Star Wars, je trouvais pas.
Je pense que dans l'idée, la page que tu viens de tourner, justement, où on est l'espèce de rassemblement.
Ça, c'est Star Wars.
Le
congrès galactique, indéniablement, ça ressemble à ça. Mais c'est vrai que je trouvais quand même que les personnages avaient un petit quelque chose d'original. Surtout ceux qui ont une petite tête de chien là.
Non, j'ai bien aimé les races extraterrestres, comme Pierre, un peu moins le dessin des humains, bon, peut-être les expressions faciales, je sais pas trop, mais ça m'a pas choqué, là, c'est bien dessiné, puis non, c'est à lire, vraiment.
Ouais, puis beaucoup d'anticipation, tout en restant vraiment ancré dans le réel, quoi. Quand ils vont dans les villages, on retrouve la tour, il y a Paris, c'est
beaucoup
la
France, vieux château.
On retrouve un vieux château, la tour Eiffel, donc on a des trucs super futuristes avec des idées vraiment fines. Et on se retrouve raccroché à quelque chose de très concret, avec une simple grippe et autres. Donc ils arrivent vraiment à... Moi, je trouve ça hyper équilibré. C'est ça qui m'a épaté là-dedans, en fait.
C'est fort, ouais. Tout est bien dosé. J'aime. C'est cool. Le tome 1 commence d'ailleurs avec la tour Eiffel. Tu vois des espèces d'habitations. Mm-hmm. Tout le monde...
Paris englouti sous les eaux.
Ouais. Tout le monde qui est parké dans la tour Eiffel avec leur tente, puis mise en quarantaine.
Ouais. Et puis en plus, ils arrivent, donc c'est nous sommes Renaissance. Donc il y a le côté paix, mais en fait, on se rend compte qu'eux sont Renaissance, mais qu'il y a des intrigues politiques hyper compliquées qui doivent eux-mêmes régler de leur bord. Donc oui, ils viennent pour aider, mais ils se retrouvent eux-mêmes pris dans un système qu'ils essayent aussi de sauver. C'est là où c'est rigolo. Il y a une espèce de mise en abîme que j'aime bien, moi. Mm.
Pour moi, ça ressemble complètement à ce qui peut se passer quand aujourd'hui des pays vont aller sauver à Haïti ou aller sauver ailleurs et finalement on profite parfois plus. Essayer de faire profiter les autres. Enfin, c'est ça que j'avais trouvé intéressant dans le côté politique de Renaissance.
Je pense que si on est fin, c'est bien ça qu'on voit qui est caché derrière tout ça. Là, c'est que tu viens aider, tu arrives, tu es le porteur de.
Il y en a qui ont envie.
Oui,
de juste faire ça, mais c'est plus dur, plus compliqué que ça.
Ça traduit vraiment bien toutes ces intrigues. Puis il y a des. Non, en fait, je pense qu'on s'accorde tous que Renaissance, ça marche quand même très fort. Le tome, en fait, c'est sur le tome 3, ça va vraiment se décider. Si le tome 3 est au niveau de ce que ça a déjà été, ça va faire une énorme belle série.
Comme tu dis, c'est cinématographique. Je vois bien ça qui peut être tourné en film. Ça va.
J'aime bien aussi.
En un seul film.
Petit clin d'œil quand ils s'installent, puis ils se mettent à exploiter un peu la lune, puis on sait pas trop ce qui se passe au début.
Ils l'exploitent, mais on sait vraiment. Mais...
Ils font peur un petit peu. Justement, ça fait peur. Déjà, ça faisait peur dans le tome 1, parce que je crois me souvenir qu'on voyait ça dans le tome 1 à la fin.
Donc on s'accorde qu'on est tous, conseille tous Renaissance et on attend assez avec impatience le tome 3 de voir si ça va se conclure sur un wow.
Il y a quelque chose qui est pas forcément le cas, par exemple pour Pride, qui est un peu moins, qui est pas pire pour le singe de Tolpool, mais franchement la couverture est vraiment vraiment belle des Renaissances, autant le 1, le 2 que le 3. C'est con, mais ça fait un bel objet d'avoir une très très belle couverture, et je trouve que, enfin, moi je sais qu'ils m'ont toujours attiré en librairie juste parce que la couverture ressortait du lot par rapport aux autres BD. Voilà, c'était le petit mot couverture.
Le petit mot couverture d'Alain.
C'est vrai, je te dirais sur la couverture.
On a un jingle couverture.
Non, pas de jingle. Et un dernier truc, c'est qu'en fait, il faut quand même ramener. C'est très actuel parce qu'il parle bien de l'épuisement des ressources de la Terre aussi. Donc il y a quand même des questions qui se posent là, qui sont quand même très très très. C'est ce qui se passe en ce moment. On a des gros challenges qui nous attendent en 2020, je crois. Après l'année Greta Thunberg, et puis on se rend compte qu'on débute 2020 avec un.
Alors moi, l'an dernier,
je m'en fiche de 2019, pas mal de pays. Sur le volet environnemental ou autre, fait que ça va nous emmener où ? Ça pose des bonnes questions. Définitivement, ça pose des bonnes questions.
Bah,
on va partir quoi?
Bah,
on partirait bien en auto.
En auto-promo, exactement, parce que c'est l'heure de l'auto-promo. Il va y avoir l'auto-promo, il va y avoir peut-être un autre truc, je sais plus ce qu'il y a. Je crois
que de la musique.
Il y a de la musique, il y a exactement de la musique, et c'est la musique CFAK qu'on met normalement après la deuxième auto-promo.
Du café,
on fait ça à chaque fois.
Des beignes.
Ça va être Danser nu, parce que je trouvais le titre cool. Vraiment cool. Danser nu, oui, voilà, ça, on fait ce qu'on veut. Hein. De Chandail de Loup, c'est un groupe. Apparemment pas très très connu, c'est un groupe qui commence à sortir du lot, hein, parce que là c'est un groupe qui pourrait passer dans, comment il s'appelle, les gars qui nous détestent là, Consensac,
ah, oui.
qui veulent pas passer un groupe s'il a plus de 10 000 vues sur Spotify, mais voilà, ceux-là ils pourraient passer. Donc on va écouter de l'auto-promo, puis Danser nu de Chandail de Loup, exactement.
T'étais pas là, la première chose que j'ai faite, je me suis appelé, sur dit ben c'est pas bête. J'ai mis mes pieds sur la table du salon, puis je sais pas si m'en mettre mes pantalons, non.
Quand t'étais pas là, la première chose que j'ai faite, j'ai mis mon pyjama à fleurs violettes. J'étais allé m'acheter un gâteau au chocolat, je l'ai tout mangé, ça donne rien, cherche le pas.
Oh ouais. Quand t'es parti, la deuxième chose que j'ai faite, j'étais allé me chercher des chips avec la trompette. Et je me suis essuyé les doigts en dessous des coussins du sofa pour toi.
T'étais pas là, j'ai laissé mes cheveux partout, dans le lit, dans le bain, dans le lavabo et tout. Il va falloir que tu débouches avant que tu prennes ta douche.
Oui, j'ai fait ça, mais surtout, surtout, j'ai dansé nu en descendant tous les remontants. Sans toi et puis tes reproches, parce que je suis soupinu. Je me disais que tu devrais partir un peu plus souvent. Tu devrais peut-être même partir tout le temps. T'étais pas là, je me suis pris pour Mad Dog Vachon. Je me suis battu contre Hulk Hogan. Je l'ai garoché sur la table du salon. Puis je sais pas si moi t'as racheté une, non.
Je me suis pris pour la fille dans Grease. Et j'ai pleuré sur Danse Lassie. En écoutant mon fantôme d'amour, j'ai fait de la poterie sur ton 33 tours.
Oui, j'ai fait ça, mais surtout, surtout, j'ai dansé nu en descendant tous les remontants. Parce que je suis soupinu. Je me disais que tu devrais partir un peu plus souvent. Tu devrais peut-être même partir tout le temps. Nanana, nanana, descendant tous les remontants. Sans toi et puis tes reproches, parce que je suis soupinu. Je me disais que tu devrais partir un peu plus souvent. Tu devrais peut-être même partir tout le temps. Nanana, nanana, nanana.
Et vous êtes de retour sur CFAK 88.3 FM, l'essence de la radio, avec les chroniques des frères Acteurs.
Ah, tu l'as eu?
Oui, t'as vu, hein.
Ah, t'es fort.
Mais j'ai fait un l'essence de la radio.
On est mercredi. Comme ne le dit pas le jingle, volontairement trompeur.
Exactement.
Demain, c'est le 5 à 8. Exactement. 5 à 8 de rentrée, quasiment, et on peut
ça,
le dire.
C'est sur un 5 à 8 de
rentrée. Quand t'as 5 à 8, il te faut de la musique. Alors,
On n'a pas de jingle pour ça.
Cette semaine, pour ton 5 à 8, tu veux mettre l'ambiance, tu n'as pas de DJ ou de DJ. Eh bien écoute, je te conseille d'écouter tout ce que fait Joël Martel. Joël Martel, c'est un gars d'Alma. Puis, Alma.
Ok. Ouais, c'est bien fait.
Ouais, c'est pas mal.
Alma, c'est la série de science-fiction.
Eh bien, il sort des albums. Ben là, il a sorti deux EP en deux jours. Là, la tune qu'on entend, ça vient de l'EP Une toilette dans la forêt.
Un classique.
Je te laisse mettre un petit peu plus fort pour que tout le monde puisse en profiter. On parle de rock'n'roll. Le titre c'est Cherche la télécommande. La
claque, divin côté, divin dessous, divin arrière, divin en
Ouais, c'est un gars, il est très multidisciplinaire. Il est aussi sorti dans un autre EP assez récent,
juste après, en fait, le jour d'après Une Toilette dans la Forêt. Il a sorti l'EP qui s'appelle Chanson pour gagner concours. On trouve une tune assez formidable. Je pense qu'on pourrait mettre Minecraft Dinner, qui me semble tout à fait inspiré. Alors, vous aurez compris, Joël est spécialiste des jeux de mots. Et je pense que pour tes musiques de 5 à 8, c'est vraiment rigolo.
Ah, mais un jeu de mots en 5 à 8, c'est
énorme.
C'est
énorme.
La seule chose sous notre menu, c'est le Craftina. Mais on te le fait comme tu veux, dans Craftina. Avec des patates, avec du lasagne.
Certainement l'album phare de Joël, je pense que pour l'instant, en tout cas pour moi, c'est Michel. Alors le band, c'est Joël Martel et les Pépites d'Or. Je vous recommande de voir la pochette d'album de Michel, qui est magnifique, qui est magnifique. On a un côté, écoute, je sais pas trop là. Je précise, ça n'existe qu'en forme numérique parce qu'ils sont soucieux de l'environnement, Joël Martel et les Pépites d'Or. Donc ils ne sortent pas d'album de manière physique, mais tout est sur Bandcamp et est gratuit. Et mon coup de cœur, de pendant les vacances, Flic Romantique.
C'est pour 5 à 8,
ça c'est le 5 à 8, ça go, tout le monde se lève.
Un flic romantique, un flic romantique.
Je te jure, c'est ça.
Ça pourrait vraiment passer en plus.
Mais ça tu vas voir, comme ça donne.
C'est un flic romantique dans une affaire qui se complète à la recherche de l'amour.
Qui cherche un amour ou une future test.
Voilà, le conseil musique du 5 à 8 de la semaine, c'est Joël Martel. Allez-y, prenez tout. Moi, je suis complètement fan de Joël. Je mettrai le lien de la page Facebook de Joël. Il y a plein de tunes à aller voir. Ouais. C'est toujours très drôle. Il est également journaliste. En fait, il fait pas mal de chroniques dans les journaux dans la région d'Alma ou autre. Mais c'est vraiment... C'est hilarant, donc c'est parfait pour votre 5 à 8.
Ce que t'as oublié de dire, c'est que prenez tout, mais prenez aussi votre journée parce qu'il y en a un petit paquet à écouter.
Ah oui, je vois toute la page. Il est extrêmement productif. Hein. Joël, c'est pas un gars qui reste dans son garage à se pogner le cul. Joël, quand il décide de sortir un EP, c'est dans la journée. Hein.
Entre EP et album, on est sur pas moins de 40 pochettes là.
C'est le nouveau Norman Amour.
Oh oui, mais c'est vraiment drôle. Okay. Je conseille. Il nous reste
quelques minutes. Il nous reste 6-7 minutes, donc on peut parler vite fait de Bride et on a après quelques coups de cœur.
Donc Oli est arrivé avec une nouvelle BD de Brian K. Vaughan.
Oli est arrivé avec une BD. Déjà là-dessus, on pourrait revenir parce que c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais.
Je rappelle que Brian K. Vaughan est l'auteur de la série culte The Last Man et j'en oublie une parce que je suis un idiot. Quelle autre
Sandman.
Série?
Non, ça c'est Neil Gaiman.
C'est Neil Gaiman. Il a fait les Paper Girls, il a fait plein de trucs à succès. Donc là, Oli est arrivé avec une BD, Pride, quelque chose que je comprends pas, puis Bagdad. Pride of Bagdad, c'est ça? Ah,
Pride of Bagdad.
Ouais. Bon, déjà, j'étais charmé par le fait que c'était Brian K. Vaughan et que le dessin, juste en ouvrant, c'est magnifique. Première page, on se croit un peu dans le Roi Lion. Il y a un oiseau qui parle avec un lion. Ouais, exactement.
Très bien.
Sauf qu'en tournant la deuxième page, on voit des fighters, des jets de guerre qui apparaissent au-dessus des lions. Ah, on est ailleurs.
C'est pas la même version du royaume que celle que j'avais quand j'étais enfant.
Non, c'est une variante.
C'est d'autres, ok. Ouais.
Non, déjà, t'es pas au zoo de Grumbay, quoi.
Non, on est à Bagdad Zoo. C'est vraiment ça, Bagdad Zoo. Donc, on est justement au sein du zoo avec les lions, puis avec les gazelles, avec toutes les autres bêtes. Ils se parlent, puis ils essaient de planifier leur fuite.
Oui, il y a un côté découverte des animaux. Hein.
puis, malheureusement, moi, ça a pas marché du tout.
J'avais l'impression, voilà, c'est ça.
Donc, j'avais l'impression de retraverser un nouveau Roi Lion moins bon, avec un beau dessin, mais avec un script qui ne marchait pas. Non, le script, moi, j'embarquais pas du tout. C'était pas convaincant. Les animaux qui se parlaient, j'avais juste envie de leur dire « Tabouette ».
C'est vous.
Ouais, c'est ça. Puis, j'ai pas aimé jusqu'aux, je dirais, 10 dernières pages où je me suis mis à adorer. Donc, je dirais pas pourquoi, mais en gros, à la conclusion, à la fin de tout ça, on comprend tout ce scénario, ce script, pourquoi il utilisait un script comme ça. Bref, j'ai l'impression que s'il avait flippé tout ça un peu, il avait introduit avec la fin, puis qu'il m'avait présenté la BD, j'aurais adoré. Mais j'ai détesté ma lecture. Non, j'ai pas détesté, c'est quand même trop intense. J'ai pas vraiment trippé sur ma lecture jusqu'à la conclusion.
Ben, je suis assez d'accord avec toi, parce que le pire, c'est que c'est C'est, ça s'inspire de faits réels. Hein. Il y a vraiment eu des. On peut le dire sans tuer l'histoire.
Si
ou
tu
autre,
dis des trucs des 5 dernières pages, les gens vont peut-être aimer parce qu'ils
peut-être. Vont lire. Ouais. Mais en fait, il s'est passé que quand il y avait l'opération Liberté en Irak, donc en 2003, eh ben, il y a eu vraiment des lions qui se sont échappés du zoo de Bagdad. Et donc, eh ben, ça raconte l'histoire et finalement, c'est ça. C'est une mise en. On finit par l'histoire vraie. Et il nous crée un déroulement hypothétique de la discussion de ces animaux et de leur déroulement. Et c'est vrai, je suis assez d'accord, on aurait pu renverser complètement la situation. Sachant que c'est vrai, ça donne une ouais, vision ouais, et un parfum complètement différent.
Tout le long, on suit ces lions qui se suivent, qui fuguent, puis on est avec eux dans leurs pensées, puis tout ça. Puis je trouvais ça pas tant crédible, mais comme tu dis, avoir eu.
Puis le dessin est solide, hein.
Le dessin est magnifique.
Nico Arichon, là, c'est. Alors, je pense qu'il vit en France maintenant, de ce que j'ai regardé. Il continue à illustrer, mais il est beaucoup en Europe. Mais
le dessin est brillant, précis, c'est magnifique. Tout est super beau,
hyper dynamique.
Les bagarres entre animaux, tout est génial. Une des tuiles que j'ai préférées, c'est la girafe qui explose. Ah non, mais quand même, le moment où la tête, en tout cas.
Oui, on peut dire.
Non, le dessin est très convaincant, mais ça a pas marché du tout au niveau du script, du scénario, jusqu'à ce que je comprenne. Pourquoi tout ça avait eu lieu. Puis, tu sais, il y a des bouts comme cette page avec les chevaux. C'est très beau, mais ça
fait... Ah, des bébés licornes.
C'est ça, c'est exactement ce que je me suis fait dire en le lisant. Je tourne la page, puis quelqu'un me dit « Ah, des belles petites bébés licornes ».
Il y a un côté un peu fantastique là-dedans. Je me demande s'ils n'ont pas volontairement mis un côté... Parce que c'est quand même l'horreur de la guerre à côté. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté, tu sais, un peu éthéré, fantastique, comme si ce n'était pas le monde réel? Est-ce que c'est pas volontaire?
Je ne sais pas, je ne saurais pas dire.
Il faut écrire à Brian...
Je te laisse contacter Brian. Mais non, à la fin, j'ai littéralement eu des frissons. Quand j'ai lu la conclusion, j'ai enfin compris. Mais ouais, ça sort de toutes ces autres œuvres.
C'était trop tard, c'était pas. Ben, on parle de quelque chose qui est passé un peu à côté du radar aussi, comme d'autres. Là, ça date de 2006.
Donc ouais, c'est quand même.
C'était d'actualité en fait aussi à l'époque.
À l'époque, c'était d'actualité.
Voilà. Donc, pour les deux dernières minutes, est-ce que vous avez des coups de cœur à nous présenter?
Alors, moi, j'ai juste. J'avais noté 2-3 trucs sur mon téléphone. J'ai 2-3 infos importantes. Parce qu'on n'a pas fait de bonnes nouvelles. On aurait pu en faire, mais.
Le gars, il fait genre, ouais, j'ai un téléphone.
Excuse-moi d'avoir un téléphone. Bon, il y a les dates du festival de BD Québec qui sont sorties cette semaine. C'est du 11 au 19 avril, donc préparez-vous. Voilà. Posez ça sur celui-là. On met une date sur ce week-end-là. Il y a le festival Art BD de Sherbrooke qui doit avoir lieu encore cette année.
Absolument.
En mai.
Oui.
Parfait, ça.
On parle de début mai, la première fin de semaine de mai, si je ne m'abuse.
Ça fait deux fins de semaine à peu près au même moment qu'il faut barrer sur son calendrier. Et pour ceux qui sont en France, parce qu'on a sûrement 2-3 auditeurs qui nous écoutent en France, ma maman déjà, la maman d'Olivier, peut-être d'autres. Il y a Michel Rabagliati qui en ce moment est en France pour faire des dédicaces, donc n'hésitez pas, parce qu'il va y avoir d'ici une semaine ou deux, je pense, le festival d'Angoulême qui va avoir lieu. Ouais. Donc il y a quelques auteurs québécois qui vont être en France, notamment Michou. Voilà, ça c'était pour les bonnes nouvelles.
Puis toi Ali?
Ben, pour rendez-vous à Art BD à Sherbrooke précisément, c'est les 8, 9 et 10 mai 2020.
Tu vois, c'est parfait. C'est des bonnes nouvelles.
Liste des auteurs à être BDistes présents à être communiqués sous peu.
Puis je vois que tu as un coup de cœur avec toi.
Oh, je le chroniquerai la prochaine fois peut-être.
Ok.
Je te laisse aller sur ton
coup de cœur. Je te laisse aller.
T'as pas de coup de cœur.
Dis ton coup de cœur et.
Ben, je suis en train de lire La Parenthèse de Élodie Durand aux éditions Delcourt et je ne serais pas étonné qu'on vous en parle dans une prochaine émission.
Ah, super.
C'est excellent.
Moi, j'ai un coup de cœur cinéma qui est le film Les Misérables de Ladji, ou j'arrive jamais à prononcer son. Comment?
Ladj.
Ouais, mais je me souviens plus exactement de son nom de famille.
Bref, Les Misérables.
Bref, Les Misérables, sur les violences policières dans les cités en France, qui concourt pour les Oscars du meilleur film étranger et qui le mériterait bien. Donc, je vous conseille d'aller voir ça.
Cool. Sur ce?
Sur ce, ben, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine, parce qu'il reste 4 jours pour la semaine. Ne lâchez rien, et puis en attendant, brossez-vous les dents.
Absolument. Ouais.